Radio Campus Lille, il est midi.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Il y a des musiques qui ne semblent pas tout à fait épanouies, mais qui semblent trouver dans leur aboutissement très relatif une grâce irremplaçable. Il y a aussi des musiques qui, dans leur confection, ont pris tant de détours que c'est en évitant leur finalité de départ qu'elles ont trouvé une facture bien spéciale. Il y a même des musiques qui font exprès de ne pas chercher d'issue volontaire pour mieux sortir des cheminements trop planifiés. Pour aborder toutes ces musiques, il faut donc mobiliser des termes éloignés des habitudes de pensée visées occidentales. On ne dira pas qu'elles sont claires ou limpides, on les entendra plutôt comme des musiques vagues, évasives, voire fades ou évidées. Autant de termes auxquels le philosophe François Julien a donné une profondeur porteuse dans un vis-à-vis entre la pensée philosophique héritée de la Grèce antique, la pensée occidentale, et la pensée de tradition chinoise. La profondeur induite par ces vis-à-vis est si porteuse qu'elle nourrit le travail de musicien et qu'elle nous a donné envie d'organiser un vis-à-vis entre le philosophe François Julien et deux compositeurs portés par sa pensée, Claude Ledoux et Aurélien Dumont, ce qui n'empêche pas d'entendre un évasif d'une grâce irremplaçable déjà dans l'œuvre de Monteverdi. François Julien, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre le Lamento della Ninfa de Claudio Monteverdi, à propos duquel Stéphane Gaulier explique que c'est un parfait exemple d'une décoïncidence en référence à ce concept que vous avez formé. En quoi est-ce que Monteverdi serait décoïncident ?
Je ne me risquerai pas, dans la mesure où je ne suis pas compétent, je ne suis pas musicien, à me prononcer. Je pense que c'est... Lui, nos amis qui sont là, qui sauraient mieux le dire. Ce qu'il me semble de façon générale, néanmoins, c'est que l'usage du concept de décoïncidence en musique pourrait peut-être signifier que c'est par décoïncidence qu'on peut faire réentendre ou peut-être effectivement entendre. Bref, que le fait que, au lieu que la musique coïncide avec elle-même et avec l'attente qu'on en a, le fait qu'il y ait des coïncidences, c'est-à-dire dissociation de ce qui coïncide si bien que peut-être on n'entend plus, eh bien, un effet surgisse, un effet qui soit non pas un effet recherché, justement, comme vous l'avez dit en préambule, mais un effet qui surgisse par cette capacité d'écart vis-à-vis de ce qui constitue l'écart de constituer notre perception. C'est pour ça que pour moi, le concept de décoïncidence dépasse en rapport avec d'autres précédemment tressés, dont celui d'écart ou dont celui d'inouï. Je pense que la musique a à voir ou à entendre avec l'inouï, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas entendre parce que, non pas que ce soit rare, exceptionnel, extraordinaire, mais parce que cela implique qu'on déborde des cadres déjà constitués de la perception ou de l'intellection pour commencer de l'entendre. Et il me semble que là, ça rejoint quelque chose d'essentiel dans la musique, qui est que pour écouter de la musique, plus radicalement pour l'entendre, il faut, je pense, chaque fois déborder des cadres déjà constitués d'expérience. Or, il est légitime que l'expérience, pour se constituer à l'expérience, constitue des cadres. C'est légitime. Et en même temps, je crois qu'il est légitime que nous soyons portés, conduits, à défaire ces cadres à travers de l'expérience, à travers desquels l'expérience se constitue, pour pouvoir justement faire réémerger de l'expérience.
Alors on entend bien comme la catégorie d'inouï pourrait produire un décadrage quant à ce qu'on entend, mais ça reste par en creux quand même une catégorie sonore, là où Stéphane Gaulier pointe un entremêlement de deux ordres de discours qui s'entrelacent, un texte à la première personne qui s'insinue au cours d'un texte à la troisième personne, ce qui me fait penser à un de vos textes qui s'appelle « Si parler va sans dire », et on peut se demander alors si la musique serait une tentative de parole qui va sans dire, c'est-à-dire une épreuve du dire qui viendrait empêcher la parole de doubler le monde, ce qui serait sa menace essentielle.
Oui, et telle que la philosophie grecque l'a constituée. Cette menace qu'elle a comme ça. Cette menace, en même temps, dont il faut bien voir la dimension féconde. Rien ne serait plus sot que d'aller loucher de l'autre côté, de l'extrême-orient, comme on dit, par fuite ou évitement de ce qu'a instauré de si fécond, de si inventif, la pensée grecque. Néanmoins, c'est vrai que, en circulant entre les deux, pensée grecque et, disons, langue, pensée chinoise, je ne veux pas dissocier la pensée de la langue qui l'exprime, eh bien, on peut être sensible à ce qu'a installé la pensée grecque, en tout cas le courant dominant. Je dis le courant dominant pour laisser de côté Héraclite, et puis toute culture a toujours des déviances ou des décoïncidences à l'œuvre. Mais disons l'idée que parler, c'est dire, ce que nous dit Aristote, parler, c'est dire, dire, c'est dire quelque chose, c'est signifier quelque chose. Donc toute parole se voit assignée à quelque chose qui justifie sa vocation de parole. Donc je crois que c'est un a priori grec, en amont même du principe de non-contradiction qu'on cite toujours à titre d'axiome, mais disons à titre préalable qui est que parler, ce soit dire. C'est-à-dire que parler est nécessairement un objet de la parole qui lui donne sa consistance. Et la phrase d'Aristote est très forte, en même temps elle nous en sert dans cette formulation, parler, c'est dire. Et en grec, c'est plus encore plus élémentaire, legein, c'est legeinti. Parler, c'est dire quelque chose, et dire quelque chose, c'est signifier quelque chose, c'est meinainti. Alors je crois que nous sommes amenés aujourd'hui à essayer, à l'envers de cela, de penser ce que pourrait être une parole qui ne dise pas. C'est déjà le cas de la poésie dans la tradition moderne. Si on pense à Verlaine, c'est déjà dans le souci verlainien, dans le souci de la poésie, disons, moderne, que de parler sans avoir à dire. Du côté chinois, c'est intéressant de voir justement comment la langue chinoise, parce qu'elle n'a pas ce double mot parler et dire, et parce qu'elle n'a pas vocation à donner de l'objet, à fixer un ti, un quelque chose qui soit dans cette fonction de complément d'objet, parce qu'elle donc, ne distingue pas le transitif de l'intransitif, etc. Pensez que c'est une langue qui ne conjugue pas, donc nous écarte de cette tradition, qui commence par Parménide, mais qui est ancrée par Aristote, associant, ou plutôt confondant, la parole et le dire. Et je crois donc nous amène à penser ce qui, quelque part, n'a cessé de travailler la culture européenne, mais j'irai par-dessous, underground, qui est cette recherche d'une parole qui ne soit pas un dire, dont on trouve déjà chez Héraclite une possibilité, mais que justement l'aristotélisme a condamné ou évacué, et dont on trouve un écho fort du côté chinois dans cette capacité d'une parole qui donc est, je dirais, d'emblée poétique, puisqu'elle n'assigne pas à quelque chose à ce qu'elle peut vouloir dire.
Dans « De l'être au vivre », vous écrivez que la vertu de l'écart est d'ouvrir un recul dans la pensée pour prolonger en disant qu'on n'invente pas, on n'imagine pas les conditions de son dépaysement. On ne quitte sa langue qu'en en apprenant une autre. C'est-à-dire que c'est en plongeant dans d'autres aires culturelles ou bien dans d'autres espaces linguistiques que ça peut se passer, mais ça ne peut pas se passer de façon délibérée ou volontaire.
Ni même par l'imagination. La grande question, si vous voulez, et c'est ce qui m'a entraîné de la Grèce à la Chine, c'est est-ce qu'on peut sortir de la langue de l'être ? La langue de l'être, être le grand verbe grec dans lequel s'est articulée la pensée grecque, et la nôtre à la suite. Vous savez, c'est une question qui a été notamment débattue entre deux grands philosophes de la génération précédente, Lévinas et Derrida, cette idée de comment sortir de la langue de l'être. Et chacun, finalement, disant à l'autre, tu n'en es pas vraiment sorti. La ressource pour cette génération et entre eux, c'est quand même la langue hébraïque. Mais néanmoins, cette idée de sortir délibérément de la langue de l'être comme, disons, vocation de la philosophie de la déconstruction, voulant donc prendre son recul par rapport à la langue et la pensée grecque, c'est-à-dire la métaphysique, autrement dit l'ontologie, le logos de l'être, ne peut se faire délibérément. Parce qu'une autre langue ne s'invente pas. Et c'est effectivement, je crois, en apprenant une autre langue, une langue qui n'aurait pas conjugué l'être, comme la chinoise. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi-même, je me suis intéressé à cette langue. C'est parce que ce qui est la porte d'entrée de la philosophie en Europe, depuis les Grecs, l'ontologie, bah, se trouve barré d'emblée. Si je n'ai pas un verbe dans la langue chinoise, pour dire l'être. Je peux dire la prédication, je suis ici, je suis fatigué, mais non pas je suis. Non pas to be or not to be, non pas cette grande alternative de l'être et du non-être ou du néant. Bref, toutes ces dramatiques-là se trouvent retirées d'emblée. Et nous sommes donc projetés dans, disons, un espace linguistique, sémantique, où ce pli-là n'existe pas, ne se rencontre pas. Donc pour déplier la pensée européenne, il y a une commodité, je dirais pour moi une stratégie, à penser par un autre espace de langue et de pensée, où l'on ne trouve pas les mêmes plis.
Bonjour Aurélien Dumont.
Bonjour David Christoffel.
Vous êtes compositeur. Quand vous avez fait vos études de composition au Conservatoire de Paris, il y avait une forte incitation institutionnelle à produire un discours théorique sur sa pratique et même à cadrer sa pratique par la théorie, tout ce que François Julien semble nous désinciter à faire, si bien que vous, répondant à la commande de théorie par la lecture de François Julien, vous y désobéissiez.
Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est un double élan, en fait. C'est-à-dire que c'était à la fois quelque chose qu'on nous imposait, ce cadre théorique qui était vraiment très, très, très lourd au conservatoire. Mais en même temps, j'ai essayé de m'en nourrir le plus possible pour pouvoir avancer. Et je me suis rendu compte qu'il y avait dans le travail une forme de reflet ou d'écho ou de dialogue entre ce qui pourrait être de l'ordre du concept, des idées, le passage à l'écriture instrumentale ou musicale ou électroacoustique et tous les allers-retours que ceci pouvait révéler et cette démarche-là m'a vraiment permis de d'avancer et puis de nourrir vraiment mon langage, enfin essayer de voir comment dans les structures les plus profondes du langage musical il pouvait y avoir des incidences qui étaient de l'ordre de pensée plus conceptuelle.
Dans vos gestes de compositeur, là où vous investissez le concept d'écart en l'empruntant à François Julien, c'est par exemple dans Tetris, qui est une double référence au jeu vidéo et à la cantate Tétis de Rameau, c'est-à-dire ce qui pourrait être deux ordres musicaux alternatifs à celui qui grouillait en vous à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Bon, il y avait aussi cette idée d'utiliser la musique pour produire des situations qui pourraient ne pas exister, enfin en tout cas, ou voir jusqu'où on peut tordre l'hétérogénéité des choses. Moi, je sais que on va certainement beaucoup parler d'altérité. J'ai un rapport avec le Japon qui est très étroit, qui est très intense et intime. Et la première chose qui m'a frappé quand je suis allé au Japon, c'était cette hétérogénéité, notamment lorsque j'ai découvert Nara, avec les temples bouddhistes à côté des temples shintoïstes, les les rues bruissantes de Pachinko, très brillantes, la vieille ville de Naramachi, tout ça, c'est vraiment... Ça peut paraître extrêmement chaotique, mais il y avait la question du lien, le musubi en japonais, qui fait qu'il y a une cohérence qui se dégage de tout ça. Et l'hétérogénéité est vraiment extrêmement forte. Et je trouvais intéressant que, à partir d'une coïncidence pour le coup, d'un jeu de mots entre Tétis et Tetris, juste une lettre d'écart, on puisse réfléchir à voir comment mettre en choses, en tension, deux choses qui n'ont effectivement rien à voir, c'est-à-dire une cantate de Rameau avec un jeu vidéo.
Écoutons-le.
Les chefs du ciel à qui l'on déchaîné, une transévidence au-delà de nos bateaux, excités intentes et sonores, je t'élève là que jusqu'à ce ciel, excités intentes et sonores, excités intentes et sonores. Fanger sa puissance vexée, et qu'on vienne dans ses feux le poutre du typhon, ne soit pas même défendu. Folie chef du ciel à qui l'on déchaîné, il pose évidence au tel et le bâton, excités à l'entente tes allants, jetez les blocs jusque aux yeux. Excités en temps des honneurs, excités en temps des honneurs. Je t'y aime là que jusque aux cieux, je t'y aime là que jusque aux cieux. Folie, folie, fugace bâton, signalé. Signaler un champion du monde, jeter vos blocs jusque dans l'onde, jeter vos blocs jusque dans l'onde, enflammé d'un monde nouveau, se grandit la juste vengeance du chef de cour. Et tu passes par ton signalé, signalé le champion du monde, signalé le champion du monde. Jetez vos blocs jusque dans l'onde, jetez vos blocs jusque dans l'onde. Enflammez un monde de l'eau.
François-Julien, quand vous entendez cette partition Tetris avec un H pour faire l'assemblage Tetris, le jeu vidéo, et Tétis, la cantate de Rameau, vous entendez un langage qui fuit la prédication ?
Je crois que il faut toujours des cadres. Je le disais tout à l'heure, l'expérience elle-même se constitue en s'encadrant, en se constituant en cadre. Et en même temps qu'il faut faire l'inverse, c'est-à-dire décadrer, déborder. Donc il y a ce travailler, je crois que c'est toujours dans cette condition qui peut paraître une contradiction, mais qui est en fait une fécondité, qui est qu'il faut du cadrage et du décadrage, il faut coïncider et décoïncider, c'est-à-dire qu'il y a s'adapter et s'accepter. Donc il y a tout ce rapport qui fait travailler parce que c'est lui qui entretient une tension affective et qui maintient en suspens la tension, la réflexion. Alors je crois que c'est... je pense que la modernité... Et le travail d'Aurélien Dumont le montre, est sans doute plus consciente de cette exigence. Il me semble que la tradition de l'art musical ou pictural le savait déjà d'une certaine façon, au moins empiriquement, au moins chez les grands maîtres. C'est-à-dire que quand je vois une peinture classique, je me dis, ah oui, là, ça coïncide parce que le petit chapeau rouge dans les tableaux de Corot, ou je ne sais quoi, qui fait déjà... On voit bien qu'il y a qui rend saillant, qui par décoïncidence ou par écart rend saillant. Je pense que c'était une exigence à l'œuvre, dans les compositions antérieures ou dans les peintures antérieures, et qui maintenant se réfléchit davantage, donc peut devenir une sorte de fer de lance de la création aujourd'hui.
Vous avez assez tôt entamé un dialogue régulier avec les architectes. Aurélien Dumont est le premier musicien qui soit entré en dialogue avec vous.
C'est sa faute, c'est pas la mienne.
Oui, mais est-ce que son profil de musicien était celui que vous auriez pu attendre en pensant des coïncidences ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu plusieurs collectifs entre, disons, mon travail des artistes, et j'ai regretté à ce moment-là qu'il n'y ait pas de musicien. Je pense notamment au numéro d'Art Presse qui avait précédé le livre publié cette année au PUF.
Art et Concept.
Oui. Et c'est vrai, c'était une absence, une lacune, peut-être même la lacune organisatrice, je ne sais pas, mais quelque chose qui, moi, me laissait insatisfait. Il y avait aussi les limites d'une publication en termes de, enfin, en volume de revue, si vous voulez. Mais dès que le rapport a pu se faire, je l'ai trouvé précieux. Parce que... pour une part, et la peinture et la musique précèdent la philosophie.
Parce que c'est un langage proto-décadrant ?
Parce que c'est un langage qui fait. Alors que le philosophe, avant qu'il arrive à faire, c'est beaucoup plus difficile. Un artiste, il est tout de suite à l'œuvre. Si on parle en termes de décoïncidence, il décoïncide tout de suite. Alors qu'un penseur est dans la médiation continue. Il est dans l'abstraction, c'est pas, qui ne cesse de se prolonger. Donc il y a quelque part sans doute un rêve du philosophe à pouvoir imaginer qu'il puisse être un artiste.
Claude Ledoux, bonjour.
Bonjour, David.
Vous avez été l'un des professeurs d'Aurélien Dumont au Conservatoire de Paris, mais c'est Aurélien
cela
Dumont...
Date, cela date.
C'est Aurélien Dumont qui vous a fait... qui vous a enseigné la pensée de François Julien, on peut presque le dire comme ça.
Exactement. Moi, peut-être que j'ai enseigné le goût du Japon à Aurélien, et Aurélien m'a enseigné le goût de François Julien.
Et dans ce livre Art et Concept, François Julien s'entretient avec Christian de Port-en-Part, ça devient du name dropping, on ajoute des noms. Et Christian de Port-en-Part dit... Un écart, c'est plus qu'un pas de côté. Vous en pensez quoi, Claude Ledoux ?
Parce qu'un pas de côté, finalement, ça peut être un évitement, dans une première occurrence. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on peut éviter ? On peut éviter le fait que... Enfin, je reprends des termes des neurosciences, un domaine qui m'intéresse beaucoup, mais c'est le fait que les neuroscientifiques parlent de notre cerveau en disant que la vision du monde que nous avons, c'est une sorte de carte neuronale qui existe. Et finalement, c'est une sorte d'inscription, une série de traces. Et de cette carte, bien finalement, si on fait un pas de côté, c'est on veut partir de la carte et puis on s'en écarte. Ce qui permet finalement de trouver de nouvelles dynamiques. Alors on peut s'en écarter pour laisser la place à quelqu'un d'autre. On peut s'en écarter parce qu'il y a une peur, mais aussi on peut s'en écarter parce qu'il y a quelque part un désir et peut-être aussi quelque chose qui remplit la fonction du jeu. Le jeu est quelque chose qui me semble assez important dans la création, et dans la musique ou dans la peinture. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est presque faire un pas de côté, ou aller au-delà du pas de côté, c'est être comme l'enfant qui voit une flaque au-delà du trottoir et qui saute dans cette flaque hein, sur la rue, et qui finalement découvre des nouvelles conditions d'existence. Ça me rappelle aussi Miro qui disait que finalement, aller rechercher dans notre enfance, il y a toute une série de gestes que nous avons oubliés, et finalement, nous pouvons retrouver quelque part, nous pouvons... nous féconder avec cet oubli, et cet oubli nous parle aussi de l'ailleurs dans une certaine mesure. Cet oubli nous parle d'une altérité de nous-mêmes qui a existé à un moment donné de notre histoire et dont nous n'avons plus conscience et que nous pouvons remettre à jour grâce à ce pas de côté. Je pense que, en même temps, par rapport à cette idée du jeu, en tant que musicien, je joue beaucoup quand je compose. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Ça crée une dynamique, ça permet de canaliser aussi peut-être l'impulsion. Et par rapport à cette idée du jeu, c'est un mot qui vient souvent dans ma pensée musicale, c'est il y a quelque chose de l'ordre de l'érotisme qui existe dans la création artistique. Alors l'érotisme, évidemment pas dans son acception commune, mais dans le fait que l'érotisme est lié à une pulsion. un désir de vie, une vitalité finalement qui est liée à cette matière première qui est en nous et qui va se traduire à travers l'écriture, de quel ordre qu'elle soit, mais aussi l'écriture musicale. Et j'ai envie de dire, pour jouir de cette impulsion, de cet érotisme, quelque part nous sommes bien obligés d'aller au-delà de la trace, de nous écarter de cette trace, parce que c'est à ce risque-là qu'on découvre l'émerveillement. Et je pense qu'un créateur est avant tout quelqu'un qui... On a parlé de Monteverdi. On sait combien il y a eu des dissensions entre Monteverdi, l'inventeur, celui qui partait de quelques données essentielles et puis qui finalement dévie en permanence de sa trajectoire et qui se faisait tancer par Zarlino. Et puis aujourd'hui, le fait que nous avons évidemment une connaissance incroyable des possibilités musicales. On parle beaucoup de la composition à partir de l'écoute, la composition des objets. Mais je pense qu'on peut composer aussi avec une forme d'érotisme que l'on a à manipuler ces objets. Et peut-être plus que de l'objet lui-même, essayer de réfléchir sur la notion de la résonance de l'objet. C'est un peu au-delà de l'objet musical, au-delà de l'écoute qui passe à travers cette sensualité qui n'existe pas si on reste peut-être à plat avec cette idée de l'écoute, avec cette idée de l'objet musical. C'est une manière dont je théorise ma propre musique. Moi, je parle souvent de résonance croisée dans ma musique. C'est-à-dire, je reviens un peu à la Chine, et c'est la Chine, mais quelque part, m'a ouvert les yeux, parce qu'on parlait beaucoup de mixité, de métissage. Et ce sont des mots que moi, je n'aime pas beaucoup. Et je me suis toujours posé la question de comment se confronter à l'altérité. D'ailleurs, le festival, j'avais convié d'ailleurs Aurélien à ce festival dont j'étais le directeur en 2012, Ars Musica, c'était Altra Cosa. Comment se confronter à l'altérité? Et des compositeurs chinois, lorsque j'ai enseigné en Shanghai, m'ont vraiment ouvert les yeux. Ils m'ont dit, mais vous savez, ce dont vous parlez, ce sont des résonances croisées. C'est lorsque vous prenez des gongs, un gong qui vient de Pékin et un gong qui vient de Canton, vous jouez ces deux gongs, ils ont chacun leur identité, mais avant tout, ce que vous allez découvrir, c'est la résonance. La résonance est la mixture qui va émerger de ces formes de résonance. Et donc, par conséquent, il y a une forme de décoïncidence, parce que notre manière de coïncider, c'est écouter les instruments pour ce qu'ils sont. Mais la décoïncidence, c'est écouter cette résonance dont on n'imagine pas la subtilité, et qui, de nouveau, nous appelle à une forme de sensualité, c'est une forme d'érotisme, parce que ça dépasse largement le cadre de de l'écoute première. Ça rejoint l'impulsion de manipuler ces objets, et en même temps, c'est une sorte de manière de conjurer la mort, parce que finalement, la résonance n'a pas de fin, parce qu'elle peut continuer à résonner dans notre imaginaire.
On va donc chercher la résonance musicale que vous avez donnée à cet érotisme dans une pièce qui s'intitule « Érotique lancinante », Claude Ledoux.
Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel.
Thank you.
Un extrait de Érotique lancinante de Claude Ledoux. Vous avez beaucoup parlé d'aller au-delà, ce qui me fait penser au nom de cette émission, Métaclassique, dont le préfixe est directement aristotélicien. François Julien, quelle différence vous faites entre le méta, l'au-delà, et l'antre?
Oui, peut-être que je vais d'abord réagir un tout petit peu
si
à ce qui était dit pour que nous puissions engager le dialogue.
Ça peut être une façon de répondre
je
aussi à ma question.
Oui, ce que vous dites du désir et de l'érotique, c'est pas métaphorique, c'est élémentaire. Et le désir, à la fois, c'est de la pulsion, c'est vrai, mais en même temps, un désir n'est vraiment désir que quand il décoïncide. C'est-à-dire qu'en fait, sinon, tout reste à plat. Donc l'émergence du désir relève de cela. Oui, alors, par rapport, vous dites l'écart.
L'écart, parce que Claude est très travaillé au-delà de l'écart par l'antre, entre l'inspire et l'expire, qui est un mot que vous travaillez. Et je me demandais si cet entre, entre Orient et Occident, le vis-à-vis que vous revendiquez pour réfléchir plutôt que d'être dans la comparaison, vous défendez d'être un comparatiste, cet entre ne serait pas une alternative à l'au-delà, au métaphysique dans lequel Aristote veut nous projeter?
Oui, alors en même temps, je dirais merveille de la métaphysique, elle a eu grands effets. Mais c'est une construction relevant de parti pris dont il faut considérer leur impensé. Et je crois que c'est le travail qui est à faire aujourd'hui. Et par rapport à quoi, effectivement, méta, c'est du l'au-delà, du renvoi. Et dans la métaphysique, c'était le grand geste du report, dans un ailleurs, la vérité, comme dit Platon, ou la proximité de Dieu dans la tradition qui... métaphysico-théologique. Alors effectivement, une chose que les Grecs n'ont pas pensé, c'est l'antre. L'antre avec un E. Métaxu en grec. Non pas méta, mais métaxu. Parce que pour l'antre, l'antre est inconsistant. L'antre ne se conçoit pas en termes d'être. L'antre n'a pas d'en soi. L'antre n'a pas d'essence. L'antre n'a pas de propriété. Donc il échappe à la pensée d'être. En même temps, si je vais très vite, je dirais, l'antre n'est pas de l'être. Between is not being, si vous voulez. Pour le dire en globiche, l'antre n'est pas de l'être, mais justement parce que l'antre n'est pas de l'être, il est opératoire, il est par où ça passe. Ça, je comprends très bien qu'en musique, ça se passe dans l'antre. Enfin, je veux dire que ce soit, ou qu'on ne dessine, disons, des extrêmes, que pour signaler ce entre quoi cela pourrait passer. Je dis cela parce que justement, l'antre n'est pas de l'être, et donc n'invoque pas un sujet. Je dis cela parce que la France française suppose qu'il y ait toujours du sujet à l'œuvre. Mais disons, c'est ce qui me paraît important dans la création, la composition musicale, c'est qu'il n'y a plus, disons, de sujet dit, désigné, n'est-ce pas ? Et donc, l'antre, c'est ce qui s'ouvre par écart et ce par où, à travers quoi ça passe. Quelque chose passe, se passe, n'est-ce pas ? Donc, le régime de l'être, c'est le régime de la détermination, de l'assignation, et le régime de l'antre, qui justement échappe à l'assignation, à la détermination, qui n'a pas de propriété. Et par là, le lieu même, et le lieu est encore trop restreint, par où ça passe, par où quelque chose peut opérer. Donc je crois qu'il y a, disons, le méta de la métaphysique, on peut l'en comprendre aussi comme le méta de la métaphore, et dans ce cas-là, on quitte la métaphysique pour considérer ce qui, justement, est à l'œuvre, notamment dans la poésie moderne, c'est pas, où la métaphore est, disons, cette capacité-là. Alors, je crois que ce qui est important, c'est justement de penser à partir de l'écart. Et finalement, la décoïncidence est une processualisation de l'écart. C'est que l'écart, à la fois, il ouvre une distance et en même temps qu'il maintient un regard. Et c'est dans cet antre, c'est dans cet écart ouvert, n'est-ce pas, que de l'antre, effectivement, peut apparaître et laisser opérer.
Aurélien Dumont, vous aviez déjà relevé dans la pensée de François Julien cette idée du processus métaphorique, plus encore même que peut-être que de la métaphore, comme un processus de transport dans de l'autre, mais aussi un décalage dans la jointure des mondes. Qu'est-ce qui, dans ce qui vient d'être dit, est nouveau pour vous ?
Ce que je trouve intéressant, c'est l'idée d'articuler ça avec la décoïncidence, en disant que la décoïncidence est une processualisation de l'écart. Voilà, je trouve ça intéressant. Et c'est vrai que le rapport à la métaphore que j'ai pu avoir, enfin, grâce à François Julien, c'est cette idée de transport dans l'autre, pour moi, était vraiment très importante. Ou dans certaines de mes pièces, je pense par exemple à Bane, où j'étais amené à tenter de penser le silence par un autre artiste. C'est-à-dire que dans cette pièce, il va y avoir donc une partie instrumentale. Et j'avais cette idée un peu utopique de me dire, est-ce que le silence peut devenir une vibration visuelle? Et j'ai trouvé chez une autre artiste, en l'occurrence Jennifer Douzenel, des résonances vidéo qui étaient vraiment très très belles. Donc il n'y a pas dans cette œuvre qui est pour ensemble instrumental avec ou sans vidéo, il n'y a pas de rapport illustratif des deux. Mais c'est au contraire, ça favorise, enfin c'est ce que j'ai voulu en tout cas, une écoute active du spectateur. Qui finalement, il y a un antre qui va s'ouvrir entre deux univers que moi me paraît vraiment intéressant de mettre en regard, mais je veux aussi inclure, c'est-à-dire que le transport dans l'autre, c'est à la fois le transport de mon travail dans un autre artiste, mais c'est aussi un transport dans l'écoute des spectateurs. Qui me paraissait intéressant.
Mais à quel moment du travail de compositeur alors se joue votre héritage de la pensée de François Julien? Est-ce que c'est par exemple du fait de cette décoïncidence de ne pas essayer d'organiser de bouclage de la partie du travail de Jennifer Douzenel et de votre travail musical?
Oui, par exemple.
C'est juste de l'ordre d'une retenue? C'est quand vous vous retenez de boucler un propos que vous êtes le plus fidèle à la pensée de François Julien?
Je veux faire une remarque, oui. Pour laisser réfléchir. Transport est un beau mot, parce qu'il y a le sens de métaphora.
Il y a le trans.
Et puis il y a le trans, et il y a le transport, comme on dit, vivre un transport. Enfin, l'émotion forte, le transport comme étant cette sorte d'émergence, beau mot que la langue classique, n'est-ce pas? Dans la langue amoureuse, vous parliez d'érotique, n'est-ce pas ? Le transport d'une personne, n'est-ce pas ? Cette sorte d'émotion qui... Donc je crois que c'est un mot qui est très fécond, ce terme-là. En le faisant jouer entre, justement, le sens banal de déplacement, enfin banal à penser, de déménagement, c'est-à-dire on déménage une chose dans une autre, et puis ce sens classique, le plus émotionnel, le plus vif, n'est-ce pas ? Comme on dit, être transporté par quelque chose.
Oui, du coup, par rapport à votre question, je parlerai pas de retenue, mais je parlerai plutôt d'une forme d'expérimentation et de mise en danger. C'est-à-dire que c'est au contraire d'oser, enfin de vraiment de prendre la mesure, de dire je suis prêt à ce que un silence soit récupéré, enfin ou un objet musical soit récupéré par un autre artiste. Avoir aussi ce danger-là de dire que la réaction du public peut-être être difficile. Je sais que c'est une pièce qui avait assez divisé au moment de la création. Pour certaines personnes, avaient du mal à rentrer dans cette pièce assez longue où effectivement, ça démarre par 15 minutes de musique avec une écriture extrêmement verticale, avec des objets qui fusent dans tous les sens. Et juste après, dans la dernière vibration de cette première partie, 10 minutes de vidéo silencieuse, j'insiste bien, silencieuse, où en fait, il y a juste un phénomène de mascaré qui va apparaître. Très processuel et du coup très horizontal, et on repart ensuite dans trois ou quatre parties, et il y avait une forme de radicalité que justement à mon avis les concepts de François Julien m'ont un peu libéré à ce niveau-là, je pense, d'assumer davantage de radicalité, je pense.
On va écouter un extrait de Baïne. Alors comme on a la radio, on n'a pas l'image, ça veut dire qu'on va amplifier ou atténuer la décoïncidence?
Je pense que les images... Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que les images, elles sont là, en fait. Elles sont là. J'ai l'impression, j'en suis vraiment convaincu. Et c'est pour ça que cette œuvre a également été portée au disque. Il y a une trace vidéo qui est présente dans la musique, qui est présente et dans le silence, et je pense dans l'écriture musicale.
C'est interprété par l'ensemble 2E2M, dirigé par Pierre Goulier. Thank you. C'était un extrait de Hong Kong, la deuxième section de Baïn d'Aurélien Dumont, interprétée par l'ensemble 2E2M. La décoïncidence devient un programme politique, François Julien ?
Oui, elle l'était implicitement, parce que la décoïncidence me paraît avoir ce double intérêt. D'une part, de défaire l'opposition théorie-pratique, modélisation-application, qui est évidemment le vieux schéma de la pensée politique, théorie révolutionnaire et puis praxis. Dans la décoïncidence, elle est directement à l'œuvre. Et elle n'invoque pas de commencement, parce que toute notre histoire politique est dominée par l'idée de la rupture. Rupture, révolution, innovation, l'appel au nouveau. La décoïncidence est beaucoup plus discrète. Elle ne prétend pas à la rupture. Elle défait ce qui, dans la situation actuelle, meurt par coïncidence, par adéquation, par adaptation, par conformisme. Donc, si vous voulez, je crois que c'est un concept qui... Ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fois, il est à l'œuvre dans le domaine des arts, dans l'existence. On ne vit qu'autant qu'on décoïncide. Bon, un artiste ne crée qu'autant qu'il décoïncide de ce qui est déjà créé. Et d'ailleurs par lui-même. C'est vrai pour la pensée. Je ne pense qu'autant que je décoïncide de ce que j'ai déjà pensé. Mais c'est vrai de l'existence. Existence, c'est justement décoïncider de ce qui a déjà été vécu. Pour pouvoir promouvoir, relancer... Et, retrouver cette capacité d'émergence, d'élan, d'essor, bref, sortant de la retombée de la coïncidence. Et c'est ce qui me paraît intéressant en politique, parce que la difficulté qu'on a à constituer un avenir qu'on puisse imaginer est de plus en plus grande. Donc, non pas invoquer la rupture, mais inviter à défaire ce qui, dans la situation actuelle, se trouve déjà en train de mourir, par adéquation, par conformisme, par obédience, donc on ne soupçonne pas. Ça me paraît, relancer l'idée d'une action politique.
Quand, au détour d'une phrase tout à l'heure, vous faisiez référence au globiche, c'est bien que ce qui mondialise ou globalise, c'est ce qui surjoue la coïncidence. Donc la décoïncidence, ce serait quoi alors ? Ce serait désorganiser la mondialisation ?
Oui, alors, mon propos était d'abord conceptuel. Je veux dire simplement qu'il est... Ce n'est pas une théorie qui serait suivie d'une pratique. Décoïncider est directement effectif. Il traverse tous les champs, et dont je pense aussi valoir en politique. Mais bien sûr, il faut l'inscrire, et je crois que l'intérêt, c'est que la moindre conduite peut être décoïncidente, et donc avoir cette dimension politique. Or, c'est vrai que résister au globish ne suffit pas. Dire que le globish, c'est-à-dire le rabattement de toutes les langues du monde dans une sorte de langue comme ça, réduite, portée par le marché, donc par le seul souci de la commodité, de la communication, et non plus faisant travailler les ressources d'expression des langues, et leurs écarts. C'est une façon, dès lors que je pratique d'autres langues que le globish, je décoïncide. Vous voyez, c'est directement effectif. On n'est pas dans une modélisation appelant son application, on est directement à l'œuvre, en train de le faire. Alors, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui recouvre notre monde, qui est pandémique avant la pandémie dite sanitaire, qui est que cet effet de marché mondial a, reconfiguré, malgré nous, sans nous, nos formes de vie. Une forme d'existence, la technicité imposée par exemple, tout ce qui est la connexion généralisée, cet afflux, ou plutôt ce recouvrement par le virtuel. Et encore une fois, il y a une pandémie, idéologique, qui s'est mise à l'œuvre bien avant la pandémie sanitaire, qui n'en est au fond que l'accomplissement. Et je crois donc qu'il faut réagir à cela, à travers ou au moyen de ce concept, mais qui est un relayé à d'autres, c'est pas une, on va pas coïncider avec la coïncidence, la décoïncidence, si vous voulez, mais qui est justement de penser alors aussi à un mode d'association qui ne soit pas d'enrichissement sur le mode du collectif, si vous voulez, qui ne serait pas additif au sens où on porterait ensemble un slogan, mais le contraire, une association donc qui associe des décoïncidences au pluriel, donc qui associe justement par écho, n'est-ce pas, des entreprises de décoïncidence qui sont chaque fois singulières. Donc, sans une sorte de couvercle, n'est-ce pas, qui serait idéologique, mais au contraire, fissuré ce couvercle idéologique par des cheminements singuliers, des coïncidences de ce qu'est l'obédience installée et effectivement que le marché mondial impose, n'est-ce pas ?
Rien du moins, il ne suffit pas de faire de la musique non commerciale pour décoïncider en musique.
Bah, je pense que c'est ce qu'on fait déjà depuis pas mal de temps.
Enfin, de fait, mais ce n'est pas là que vous investissez le plus la notion de décoïncidence ?
Bah, j'ai l'impression qu'en tout cas, cette notion de décoïncidence, elle a lieu dans mon travail d'artiste, en fait. Ça, c'est une première évidence, peut-être. Après, l'articulation avec le politique, je pense qu'il faut continuer de croire en ce qu'on fait, essayer de, peut-être aussi de, pas forcément de convaincre, mais en tout cas d'intégrer dans notre propre travail des préoccupations qui peuvent être politiques, par exemple.
Mais il me semble qu'une décoïncidence musicale a un effet politique. Si vous voulez,
sans se télécommander comme tel, en fait.
Oui, c'est ça l'intérêt. C'est qu'au fond, dès lors que vous produisez une musique décoïncidente, ça a un effet politique. C'est-à-dire, ça a un effet de fissuration. Ce qui fait le politique, c'est quoi ? C'est le commun. Donc, on peut partager cet effet de décoïncidence, comme on le fait quand on écoute une pièce de musique d'Aurélien Dumont, et cela a un effet politique parce que cela a déjà prise, c'est même là qu'il a prise, sur, disons, une obédience de coïncidence installée.
Claude Ledoux, il y a un endroit où on coïncide presque automatiquement quand on fait de la musique, c'est entre la note d'intention et ce qui se passe sur la partition. Dans Conférence sur l'efficacité, François Julien nous explique qu'il y a le régime de la planification qui rationalise les rapports entre des moyens et une finalité, la fin justifiant les moyens, pour reprendre la formule machiavélique. Là où la pensée chinoise est une pensée de la tension par corrélation, vous vous retrouvez évidemment plus de ce côté-là.
Oui, et c'est vrai qu'il y a souvent un grand écart finalement entre le projet original, la manière dont on peut éventuellement le décrire. On en revient à cette notion du désir, c'est-à-dire toute œuvre musicale part essentiellement d'un désir de communication. Et puis il y a la manière dont on va l'organiser. Et donc j'ai envie de dire, quand on est artiste, quelque part on est toujours en grand écart entre la manière dont on va organiser la matière. En l'occurrence, en tant que compositeur, la manière dont on va utiliser des structures qui sont des structures intellectualisées, si j'ose dire. Et puis le projet musical, c'est-à-dire cette trajectoire dynamique qui va sous-tendre l'expression du sonore à travers le temps. Et dans une certaine mesure, l'un ne coïncide pas nécessairement avec l'autre. Et justement, par rapport à cette idée de note d'intention, je crois que Aurélien a souvent le même problème que moi. C'est-à-dire, on nous demande très souvent d'écrire quelque chose alors que l'œuvre n'est pas encore terminée. Et donc, par conséquent, qu'est-ce que nous faisons ? Ben, nous parlons de nos désirs, nous parlons de nos projets musicaux, éventuellement quelques petits éléments de structure, mais lorsque la pièce est jouée, on se rend compte évidemment qu'il n'y a pas une adéquation totale entre ce que nous avons écrit et puis ce que l'on entend réellement. Tout ça vient évidemment de cette manière dont l'écart entre la structure, entre la manipulation de la matière sonore et puis le projet, la pensée qui sous-tend l'œuvre musicale, eh bien, crée finalement un antre que l'on doit manipuler en permanence. Et dans ce sens-là, c'est très intéressant de lire François Julien, parce que justement, ça nous permet aussi de comprendre la manière dont on intègre l'altérité, la manière dont on intègre l'autre, finalement. Est-ce qu'on tente vraiment de le phagocyter, de le prendre pour nous, ou bien est-ce qu'on garde cette distance si on prend une référence à la musique japonaise, si on prend comme référence la manière dont un auditeur, finalement, écoute dans un lieu donné très particulier, si on a des champs de pensée qui correspondent à des phénomènes extérieurs. On parlait du marché, quelque part. Est-ce que je vais composer en fonction des besoins du marché pour mieux me faire connaître, ou bien est-ce que je vais correspondre à ce que je suis au plus profond de moi-même ? Voilà des éléments qui vont nourrir, finalement, cet espace qui existe entre l'intention première et puis la structure, l'organisation, finalement, du discours. Et j'ai envie de dire, nous sommes toujours dans cet état permanent. Et puis, l'écart, quelque part, vient naturellement dans le phénomène de composition. Et on tente de le remplir finalement avec ces éléments qui peuvent être tout simplement de notre vécu personnel, mais aussi avec notre connaissance, avec l'acquis, ce que nous avons lu, ce que nous avons découvert, justement, pour pouvoir remplir cet antre qui est extrêmement prometteur et qu'on ne peut pas déduire lorsqu'on écrit une note d'intention.
On a bien compris que répondre à la demande du public, c'est vouloir coïncider. Est-ce pour autant que des coïncidés impliquent de contourner les adéquations qui pourraient se faire?
Oui, tout à fait. Et d'autant plus qu'aussi qu'en tant que, par exemple, compositeur, enfin, je me souviens d'un mot, j'ai étudié avec Ligeti quand j'avais 20 ans, et Ligeti me disait ce qui est terrible quand même, c'est qu'on se rend compte que le monde va de plus en plus vite et que finalement, on en viendrait à une forme de coïncidence qui se fait de plus en plus urgente et de plus en plus rapide. Ce que Ligeti définissait comme une forme d'académisme. Et Ligeti se disait que quand on devient académique, il est temps de penser à autre chose, de passer à autre chose. Or, le monde aujourd'hui va très très vite. Donc, ça veut dire qu'on est en permanence dans cet état de coïncidence que l'on doit bousculer pour pouvoir imaginer ce que sera le futur.
Je crois que l'emprise idéologique est beaucoup plus grande aujourd'hui, comme vous l'avez dit, parce que la thématisation coïncidente se fait très vite. Et pourquoi ? Parce qu'il y a les médias. Les médias sont quand même les grands vecteurs de cette coïncidence idéologique pandémique à laquelle il faut essayer de fissurer pour faire réentendre de la musique ou de la pensée. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous relie, qu'a dit à l'instant Aurélien Dumont, c'est par rapport au marché. Il y a quand même deux façons aujourd'hui de se situer dans le monde, soit commercialement par l'audimat, qu'on soit compositeur ou philosophe. Vous savez qu'il y a, je pense qu'il y a, j'imagine, des compositeurs qui composent la musique qui est prête à être consommée, la plus facilement adaptée. Et puis il y a des...
La radio savez, aussi, oui.
Pardon ?
Non, en radio aussi.
Sans doute, oui, on va venir à la radio après, parce que c'est le pire.
Mais, oh disons, non, il y a la télé quand même.
il y a, si vous voulez, et c'est la même chose dans la pensée. Oui. Vous avez des pseudo-philosophes, non-philosophes qui vendent, disons, qui se situent d'emblée dans le marketing des idées. Donc je crois que notre cause est commune, là, si vous voulez, et qu'elle est effectivement... Et que là, il y a un choix, mais c'est un choix qui est éthique et politique, les deux, n'est-ce pas, en même temps, qui est de savoir si on va tout de suite satisfaire le marché tel qu'il est déjà installé, et donc dans sa coïncidence implantée, ou si, ben, on y coïncide, et ce qui implique un cheminement beaucoup plus difficile, et dans la reconnaissance, et disons, dans l'accès à un public. Mais alors peut-être qu'il n'y a pas le même public non plus. D'être un public qui effectivement écoutera au lieu d'être un public qui simplement consommera.
Mais quand vos livres sont lus, décortiqués par des spécialistes en management, qu'est-ce qui se passe précisément? Ils essayent de faire coïncider vos concepts de décoïncidence avec quelque chose qui est de l'ordre du marché?
Je pense, si vous voulez, que le sentiment qu'ils sont dans la difficulté
est très grand.
Les porte à... n'est-ce pas, chercher quels seraient d'autres modes d'intelligibilité que ceux qui sont le plus facilement consommés. Donc, il n'y a pas peut-être qu'une seule façon de... seule forme d'efficacité, on peut penser à d'autres, en tout cas, c'est ce que... Bon. Mais je crois qu'il y a, oui, parce qu'il y a une intelligence qui est commune. Et je veux dire, les managers sont aussi dans la réflexion, comme le peuvent être des compositeurs ou des philosophes, à moins qu'ils soient bornés. Mais disons, je crois, moi, à la démocratie, c'est-à-dire au fait que, quelles que soient les pratiques, l'intelligence est à l'œuvre. Alors, les managers sont sans doute plus sous, disons, le régime d'obédience imposé par le marché, mais en même temps, sont souvent, je crois, et le rapport que je peux avoir avec eux, suffisamment intelligents pour voir que, justement, ça marche trop bien. C'est-à-dire que peut-être le lieu où il faut le plus décoïncider, c'est le marché.
Justement. Aurélien Dumont, quand on se surprend à avoir son propre style, ce serait une menace de coïncidence à soi-même en musique ?
C'est une très bonne question. Je pense qu'en fait, ce qui est, votre question nous invite à penser sur le rapport entre une œuvre en particulier avec ce que pourrait constituer l'œuvre en fait dans le temps, c'est-à-dire
un corpus avec une cohérence qui serait, oui, identifiable et qui serait un ordre de lisibilité.
Exactement.
Et qui donc deviendrait idéologie.
Exactement. Mais je pense que de ce fait, on peut avoir des préoccupations langagières ou en tout cas des choses qui dans le discours nous caractérisent ou dans le matériau. Moi, c'est vrai que j'utilise, par exemple, je peux partager avec Gérard Pesson ou même avec Claude Ledoux un certain type de matériau, enfin, ou certaines manières de penser la musique ou le discours à certains endroits. Mais il reste que chaque pièce porte en elle un énoncé ou une énonciation qui peut lui être propre. Et je pense que c'est ce qui permet finalement de, voilà, à la fois de, d'ouvrir une brèche dans les travaux précédents pour s'y engouffrer et puis décoïncider avec les travaux précédents, tout en gardant une cohérence, une forme de construction petit à petit d'un univers musical, mais que chaque pièce aussi porte en elle des préoccupations qui lui sont propres et qui permettent, voilà, je parlais d'énoncé ou d'énonciation, voilà, de, je pense qu'une fois qu'on a sa propre grammaire qui s'établit, son propre discours, on peut s'affranchir davantage de ces questions-là, de la question du son pour le son, pour justement rentrer davantage dans des préoccupations qui sont peut-être plus ouvertes en tout cas, ou plus extra-musicales.
On va terminer l'émission en écoutant Un ciel fait d'herbe de Claude Ledoux. Ça, c'est une œuvre qui décoïncide de quoi ?
Ça décoïncide justement par rapport à ce dont on parlait, ce rapport entre une technique, hein, des configurations, finalement, de logique de pensée. Par exemple, toute la trame harmonique de cette pièce a été conçue totalement par ordinateur, dans certains sens. Je suis celui qui a élaboré le programme et j'ai appuyé sur un bouton et toute la trame harmonique est sortie. Et puis après, il y a le projet à proprement parler. Il y a une idée poétique, il y a une référence à un poème, mais aussi il y a une trajectoire, justement, sur la transformation progressive d'un matériau et de se dire comment, finalement, on va jouer entre une forme d'intuition qui est cette transformation progressive des matériaux, et puis un lien logique extrêmement fort. Et donc, par conséquent, c'est comment décoïncider ce lien logique extrêmement fort. Parce que finalement, le matériau peut, dans une certaine mesure, définir la forme. C'est un peu comme si le matériau a aussi son histoire, et très souvent, on se rend compte qu'un matériau pourrait presque prendre le dessus de la volonté du compositeur en disant « je veux aller là-bas ». Et ce qui m'intéressait, c'est de se dire justement « je vais refuser cette direction qu'impose le matériau pour pouvoir le décoïncider de cette direction, pour aller vers une autre dimension qui est celle d'une forme d'intuition formelle qui est liée à l'aspect poétique ». Et c'est dans cette tension permanente que j'ai imaginé la pièce. Il y a une petite chose quand même, j'aimerais poser quand même une petite question, oui, à François-Julien avant d'entendre cette pièce. Et on parlait de l'urgence, coïncidence, décoïncidence aujourd'hui, que je ressens très fort d'ailleurs en tant que professeur de composition. On voit l'enjeu que ça pose, hein, au niveau de la nouvelle génération. C'est quelque chose d'assez problématique en se disant, tiens, je fais quelque chose, mais c'est déjà up to date, c'est déjà dépassé finalement. Moi, je me posais la question de savoir si on est pris dans cette dynamique. Il y a une coïncidence, je veux décoïncider, et c'est de plus en plus urgent, de plus en plus rapide. Est-ce que finalement cette nécessité de décoïncidence ou ce désir de décoïncidence ne finit-il pas par devenir mécanique et donc de devenir coïncident?
C'est le risque. Mais s'il n'y a pas de risque, je crois qu'en composition musicale comme en philosophie, rien ne se passe. Bien sûr, la décoïncidence peut se renier en coïncident. C'est comme, disons, la vie n'est faite que de ça. C'est-à-dire décoïncider de la décoïncidence, ne pas, disons, la replier. Je crois que c'est une exigence à la fois de la pensée et de la vie, indissociables l'une et l'autre, à cet égard, et qui est que la menace de recoïncidence est toujours là. C'est contre elle qu'on travaille. Pour un philosophe, c'est faire un système. Un système où tout s'emboîte, etc. Et effectivement, tout travail philosophique tend au système. Simplement, c'est pas désystématiser, c'est défaire cette commodité du système ou ce confort dans lequel le système s'installe. Parce que le système en lui-même n'est pas mauvais. Simplement, il se crée du confort, il se crée une positivité, il tente à s'installer. Et c'est donc défaire ça qui est, disons, proprement pensé.
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas à ce moment-là des hiérarchies de décoïncidence, finalement? En pensant justement l'urgence, coïncidence, décoïncidence, est-ce qu'il n'y a pas finalement une coïncidence à plus long terme à imaginer qui remette en question?
Une méta décoïncidence.
Oui, exactement.
C'est à méditer.
Merci beaucoup, François-Julien. Merci, Claude Leroux, et merci, Aurélien Dubon.